Et donc, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième émission de Ziva. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons autour de la table
Émilie,
Elliot,
Luciano
et Iñaki. Et nous avons un invité de l'École démocratique de l'Orno. Donc, je vous laisse vous présenter.
Oui, Romain Gauthier, donc de l'École démocratique. On a un stand sur le village des possibles, ici, cette année.
Et qu'est-ce que vous faites au ce stand ?
Eh bien, sur ce stand, cette année, on met en avant en fait, en quoi les adultes peuvent parfois avoir des discriminations vis-à-vis des enfants. Donc c'est l'agisme, ça s'appelle l'agisme. Et par exemple, ça peut s'exprimer d'une façon où un adulte ne va pas permettre à un enfant de s'exprimer pour donner son opinion, ou alors lui couper la parole, ou le considérer un peu comme une chose. Donc cette année, au stand, on fait prendre aux gens conscience que parfois ils peuvent avoir des discriminations par rapport aux enfants, que eux-mêmes, quand ils étaient enfants, ils ont été discriminés. Et on leur permet de réaliser des petits galets en peinture sur lesquels, en dessous, ils vont pouvoir scotcher une phrase qui permet de changer ces comportements-là pour être plus égalitaire, enfants et adultes.
Et donc, par exemple, comme discrimination dont vous avez parlé, il y a quoi comme discrimination qui reviennent souvent ?
Eh bien, on peut avoir, par exemple, un jeune à qui on impose des choses. Alors, il y a des choses très banales comme, par exemple, les habits qu'il va mettre ou... L'adulte qui va faire son planning dans une journée sans prendre en considération le rythme de l'enfant ou ses propres désirs. Donc ça va être, nous on va inciter à ce que l'adulte et l'enfant puissent plus dialoguer, que l'adulte puisse écouter l'enfant. Par exemple là j'ai ramené quelques-unes de mes phrases qu'on propose aux gens de lire et d'inscrire sur, de mettre sur leur caillou. Et il y en a une qui dit ceci... l'adulte peut vraiment prendre le temps d'exprimer ses émotions et ses besoins à l'enfant et aussi d'écouter les siens et de considérer l'enfant comme une personne, un être humain. Et donc vraiment, s'il lui donne de la considération, l'enfant va en retour lui donner de la considération. Et donc l'enfant n'est ni un esclave, parce que parfois l'enfant devient comme un esclave si l'adulte est autoritaire, s'il est dominant. Et donc parfois ça peut vraiment être très subtil, on peut manipuler son enfant. Et donc ni esclave ni enfant roi, c'est pas non plus un enfant à qui on va permettre de tout faire, mais c'est une personne qui fait partie d'une communauté, la famille. Et dans cette communauté, chacun peut s'exprimer et s'écouter pour que chacun puisse réaliser ses talents, ses passions, ce qu'il a envie de faire.
Et donc qu'est-ce que vous proposez, vous, à l'École démocratique de l'Orno pour justement éviter ces discriminations ?
Oui. Alors peut-être pour situer l'École démocratique de l'Orno avant tout, c'est un lieu d'apprentissage qui est à Jambloux. Donc on est entre le Brabant Wallon et le Namurois. Et c'est une école qui a 3 ans. Elle a été créée en 2016-2017. Et les principes pédagogiques, c'est un décloisonnement des âges. Donc il y a des enfants qui ont 3 ans, de 3 ans à 18 ans. Donc des enfants qui ont de l'âge de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et qui, dans une journée, évoluent tous ensemble. Il n'y a pas de classe, de répartition par âge. Ils sont vraiment tous ensemble et ils vont pouvoir faire des activités les uns avec les autres, quel que soit leur âge. Donc il y aura un grand apprentissage qui va se faire d'enfant à enfant, où les plus grands vont aller voir les plus petits, leur transmettre des choses, et les plus petits vont redonner conscience aux plus grands des choses qu'ils ont pu oublier par le jeu, par des choses simples, et même apprendre des choses qu'ils connaissent que les grands ne connaissent pas. Et on change aussi le fait que ce n'est pas forcément l'adulte qui va dire « Tiens, là, on fait les maths, là, on fait le français, là, c'est 2 heures où on va faire du sport. » Au matin, on a un temps où on se rassemble tous en cercle, dans une réunion, et les enfants et les adultes vont dire « Tiens, moi, aujourd'hui, je vais faire ça, je propose ça pour les autres. Je propose ça pour des gens qui ont 12 ans à 18 ans. Moi, je propose une activité pour tous les âges. Moi, je vais faire un projet juste avec cette personne et cette personne ou juste moi. » Les adultes peuvent aussi proposer des ateliers, des projets. Et puis après, chacun s'inscrit là où il veut dans sa journée. Donc, un des principes, c'est que l'enfant choisit ce qu'il veut apprendre et comment il l'apprend. Donc, on va suivre vraiment son enthousiasme, son envie d'apprendre. Et il va construire ses journées, ses semaines, ses mois, comme ça, avec l'adulte qui va faciliter, accompagner ce qu'il veut faire. Donc, si un enfant vient me dire « Tiens, moi, j'ai envie de monter un projet avec des robots, ou construire un robot, puis faire, il a peut-être entendu parler de ça, un concours de construction de robot, eh ben, on va pouvoir construire avec lui et d'autres enfants, s'il y a d'autres enfants qui sont intéressés, de faire ce projet. Et à partir de ça, des choses concrètes que les enfants vont amener ou que d'autres adultes amènent, ben, les enfants vont apprendre les maths, le français, les sciences et tout, toutes les choses de base. Donc ça, c'est... Oui.
Toutes ces phrases-là... toutes ces phrases-là que vous avez amenées pour nous, c'est des phrases de la kinésiologie.
Kinésiologie ?
Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ben, des personnes, c'est un métier.
Oui.
Qui, c'est un peu, c'est des personnes qui nous donnent des conseils pour moins s'énerver, pour faire de la créativité, tout ça et tout ça, des choses comme ça.
Alors, ces phrases... Kinésiologue.
Oui.
Oui, je connais, c'est une profession où parfois il y a des enfants de notre école qui vont, ils vont chez l'ostéo, chez... donc qui travaillent le corps et les... en quoi le corps peut être connecté aux émotions, au mental, ce qui se passe. Et... C'est ça, tu veux dire ?
Oui, oui, c'est ça.
Alors, ces phrases sont pas... je ne les ai pas trouvées auprès d'un kinésiologue. Ça aurait pu, peut-être qu'il y a des kinés qui utilisent des phrases comme ça. Là, il y a des citations de personnes. J'en ai une là, par exemple, de Peter Gray, qui est quelqu'un qui a dit « Le jeu libre est un moyen dont la nature a doté les enfants afin... » Alors, « Le jeu libre est le moyen dont la nature a doté les enfants afin de leur apprendre qu'ils ne sont pas impuissants. » Donc ça, c'est peut-être des phrases que ton... Ou que, je ne sais pas si tu vas chez un kinésiologue.
Si, j'ai été.
Peut-être qu'il te lisait des phrases comme ça. En tout cas, c'est des phrases qui ont été trouvées, que j'ai trouvées ou qu'on a créées, que j'ai écrites, qui sont issues d'un livre... qui s'appelle « Qu'est-ce que l'agisme ?» d'une auteure qui s'appelle Elfie Reboulot, qui est française. Et en fait, c'est une dame, une maman, et une dame qui habite dans le sud de la France, qui a créé un village démocratique. Et en fait, c'est des gens qui se sont rassemblés dans un village avec leurs enfants, avec d'autres enfants qui viennent. Et donc, ils ont leur métier, leur activité. Là, les enfants, ils ne vont pas à l'école, mais ils vont vivre dans le village avec ces adultes qui proposent leur métier, leurs activités. Les enfants vont aussi proposer leurs activités, leurs... et donc tout ça fait une communauté de pratique et d'apprentissage. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont issues de ce qu'a écrit donc Elfie Reboulot, cette dame-là.
Ça vous arrive parfois qu'un enfant et un adulte ont la même proposition ?
Oui, donc du coup s'ils ont la même proposition, ils vont pouvoir faire une activité ensemble. Par exemple, s'il y a là un adulte qui avait envie de proposer aux jeunes de partir faire de la randonnée, pendant 4 jours ou 5 jours dans la forêt sans trop de provisions, et donc ils vont apprendre à pêcher et puis se nourrir de ce qu'ils récoltent et puis dormir sous tente dans des endroits des prairies qui sont prêtées. Et il y avait d'autres jeunes qui voulaient faire ça, qui avaient déjà évoqué un peu avant qu'ils avaient envie de partir aussi camper. Du coup, ils se sont mis ensemble et ils ont créé un projet ensemble. Là, ils vont partir en août parce que nous, on reste ouvert pendant les grandes vacances. L'école, elle n'est pas fermée.
Et ce genre de métier, ça dure de quelle heure à quelle heure ?
Alors l'école, elle est ouverte de 8h à 17h tous les jours. Et donc moi, je suis entre 8h et 17h dans l'école, sauf le mercredi. Et en même temps, les enfants et les adultes, certains adultes, parce qu'on doit quand même ouvrir l'école ou la fermer, ils peuvent venir entre 8h et 9h30. Donc ils ne sont pas tous obligés d'arriver à 8 heures. Ils peuvent arriver plus tard s'il y en a qui ont envie de dormir un peu plus. Donc on essaie de respecter le rythme des enfants et de la famille. Ils peuvent arriver à 9h15 pour qu'on commence à 9h30 ensemble. Et ça ferme à 17h l'école. Et en même temps, ceux qui veulent partir à partir de 15h30, c'est là où on permet aux gens de commencer à partir. Ils peuvent partir à 15h30, reprendre le train, les parents viennent les chercher ou d'autres.
Mais voilà. Y a pas des enfants qui ont eu un peu peur avant de faire les activités qu'ils voulaient, par exemple partir avec des autres gens qu'ils connaissent pas, 4 jours sans leurs parents, faire du camping. Y a pas des enfants qui ont eu peur, une de ces émotions ?
Ouais. Alors, si tu veux, je peux essayer de répondre à cette question en la découpant en deux. Cette activité de faire du camping, c'est la première fois qu'on l'a fait, donc je ne sais pas si les enfants ont encore peur ou pas de partir faire du camping. Alors, les enfants se connaissent bien parce qu'ils sont là depuis 3 ans dans la même école et ils ont appris à avoir confiance l'un en l'autre. Alors c'est sûr que pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils vont aller faire du camping comme ça en partant en mode un peu survie. sans apporter beaucoup de provisions ou dormir dans la forêt tout seul. Donc sûrement que certains ont peur. Après, j'entends aussi dans ta question que c'est peut-être que... Oui, je peux répondre aussi que dans l'école, en fait, les enfants apprennent à avoir des... Voilà, écouter leurs idées, écouter leurs envies et proposer des projets. Et certains, au départ, quand ils arrivent dans l'école, eh ben, ils ne vont pas être très motivés pour tout de suite proposer des projets ou savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, ils vont peut-être un peu s'ennuyer ou ils vont peut-être aller voir faire une activité d'une autre personne. Si un autre adulte ou un autre enfant propose quelque chose, un club, il y a par exemple des clubs jeux de société, clubs de jeux d'échecs ou d'expériences scientifiques, un autre club qui va apprendre à faire de la voile, du voilier. Et donc, si on n'a pas trop motivé, on n'a quand même pas trouvé notre, je sais pas, un projet qui nous est propre, on peut aussi aller s'inscrire et aller participer à quelque chose que quelqu'un d'autre propose.
Mais alors, il n'y a pas de système de points ?
Il n'y a pas de système de points, oui. Ça, c'est aussi un autre... pas de système de points, pas de notes, donc, et pas de programme. Les enfants n'ont pas obligé de suivre les maths pour apprendre ça ou ça, ou le français pour apprendre ça ou ça. Ils vont l'apprendre, et donc, ça va leur permettre quand même, s'ils ont envie de passer le CESS, le diplôme à la fin des études pour aller à l'université ou ailleurs, de le passer. Et en même temps, bah, ça va se faire un peu naturellement parce que les enfants vont apprendre plein de choses. Et nous, les adultes, on va avoir aussi ce rôle d'être parrain d'un enfant, d'être facilitateur de ses apprentissages et donc un référent. Et donc de lui dire, tiens, là, si tu veux passer tel ou tel examen, donc des examens qu'on passe à l'extérieur de l'école, tu as encore besoin d'apprendre telle ou telle chose dans cette matière, comment tu veux le faire, est-ce que ben voilà, tu peux utiliser tel ou tel outil ou livre ou façon de faire pour le faire. Donc c'est un dialogue qui se crée avec le jeune et c'est selon ses envies et ce qui le motive, parce qu'il a peut-être envie de passer ce CESS ou ce diplôme pour aller après faire de la mécanique ou faire de la médecine ou faire n'importe quel, quel métier ou quelle passion, eh bien on l'oriente, on l'aide à concrétiser ce qu'il veut concrétiser.
Ouais. Si, mais si j'ai bien compris, d'un côté, c'est pour que les parents, les adultes et les enfants s'entendent, et de l'autre côté, que c'est pour apprendre, pour savoir quel métier on veut faire quand on sera grand.
Alors dans ta première partie de question, est-ce que oui, c'est un système où justement on essaye de ne plus être sur un rapport de force entre des adultes qui domineraient des enfants, par exemple, c'est pas dans toutes les écoles ou pas avec tous les profs, mais on peut avoir dans l'éducation parfois des rapports un peu autoritaires d'un adulte par rapport à un enfant. Et on va obliger à faire tel ou tel contrôle ou à faire telle ou telle chose avec un rythme et l'enfant aura besoin d'un autre rythme, par exemple sortir faire pipi ou sortir faire une pause et l'adulte dit non, ça c'est mon cadre et il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc nous on essaye de vraiment créer à ce qu'il y ait du dialogue entre enfant et adulte pour qu'ils se respectent, qu'ils se comprennent mieux et que l'enfant soit considéré vraiment comme un être humain à part entière et pas quelqu'un qu'on doit, on doit lui donner plein de savoir et ça doit rentrer dans son cerveau. Donc vraiment retrouver l'émerveillement et toute la beauté de l'enfant. Et aussi dans ta deuxième partie de question, donc là j'étais d'accord avec toi, et c'est ça, c'est, on va essayer à créer quelque chose où il n'y a pas d'agisme, où il n'y a pas cette discrimination d'enfants et adultes. Et ce que tu me disais, c'est que... J'ai oublié la deuxième partie.
Que c'était pour aux enfants, c'est pour qu'ils apprennent leur métier.
Oui.
Quand ils seront grands.
Alors, oui, et en même temps non. Je dirais, ce qui est important pour moi et ce qui est important aussi pour l'école, c'est que l'enfant soit aussi bien maintenant. Qu'il ne pense pas toujours au futur. Qu'il ne pense pas, tiens, je fais ça, je fais telle matière, c'est parce que je veux apprendre tel métier. Mais ça va venir progressivement. Peut-être qu'il aura aussi des projections. Il dira, ah ouais, ça, j'aime bien, je fais un projet là. Dans l'école, on a reçu une voiture qui est cassée, le moteur est cassé, et on se dit qu'on va peut-être la démonter, faire un atelier de mécanique pour démonter cette voiture avec quelqu'un qui est passionné par les voitures et qui pourrait nous aider à la démonter. Du coup, il y a peut-être des jeunes qui vont faire ça pendant un an ou six mois, le temps de démonter, remonter, changer peut-être des pièces. et peut-être que ça va les passionner pendant quelques temps et qu'après ils voudront en faire un métier, mais peut-être pas, ça aura peut-être été juste un moment dans leur vie d'enfant. Là, entre 3 ans et 18 ans, ils auront fait ça, et puis après, ils passeront à autre chose. Ils seront passionnés par, par tout ce qui peut être... on a quelqu'un qui va commencer à faire de la poterie chez nous, donc construire des choses avec de la terre cuite, de l'argile. Et peut-être que quelqu'un qui va vraiment se passionner et travailler longtemps là-dedans. Et ça ne sera peut-être pas son métier. Pour certains, ça va être leur métier. Et effectivement, les jeunes peuvent tester très tôt, en fait, à partir de qu'ils ont envie. Des choses qui les passionnent vraiment et leurs talents, et donc découvrir très tôt peut-être quels vont être les métiers qu'ils vont vouloir faire après.
Mais alors pour les examens obligatoires, par exemple le CE1D,
oui.
Il n'y en a pas ?
Si, le CE1D est aussi un examen obligatoire qui est fait à l'extérieur de l'école. Et donc les enfants, en plus de leur projet, voilà, que je parlais à... Qui couvrent plusieurs disciplines, vont aussi se dire, tiens, c'est aussi un des projets de passer le français, les maths pour le CE1D. Donc nous, soit ils vont le faire tout seuls, à apprendre les différentes matières avec différents outils et fascicules qui leur conviennent, soit ils vont demander, est-ce qu'on peut mettre en place une classe d'anglais, une classe de maths pendant 6 mois ou 3 mois, selon les besoins, pour... apprendre juste pour cette matière.
Et s'il rate, il se passe quoi ?
S'il rate, en fait, la possibilité, c'est de le passer en plusieurs fois. Donc s'il rate une matière, il peut repasser une l'année d'après.
D'accord. Je propose une petite musique.
Eh bien, on peut passer, par exemple, Jose Embrasse Fort de Claudio Capéo, si c'est possible pour la technique. Ouais, on fait oui. Voilà.
Les gens m'ont dit que Paris était si magique que les cœurs les plus romantiques se laissent dérober par sa beauté du sel. Moi j'ai dû voir ce côté certes plus tragique où des pauvres gens survivent sans fric sur le trottoir avec bébés et poussettes. Dans l'envers du décor, le dos de la carte postale, 3 millions de fourmis qui courent au sein de la capitale. Son histoire, elle nous apporte un peu d'espoir. Je vous embrasse fort, le petit bonhomme, le métro chante, le ciel est gris. À la couleur du macadam, c'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit. Je vous embrasse fort, le petit bonhomme, les gens heureux ne sont pas d'ici. Chacun cherche sa place dans les rues de Paname. Dans les rues de Paname. cherche sa place dans les rues de Paname.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Et donc c'était Je vous embrasse fort de Claude Capéo. Voilà, je cherche mes mots.
Et pendant ce temps, on a perdu Lulu.
Lulu qui va revenir d'ici pas longtemps. Bah donc on va continuer. Nous sommes toujours sur Ziva et nous avons toujours l'école démocratique de Lorno qui sont toujours avec nous. Voilà.
Je suis.
Oui, oui aussi, oui, bon. Donc voilà. Mais j'avais une petite question, je sais plus si on l'a posée ou pas, j'ai déjà... c'est dimanche donc je suis fatigué. votre école est là depuis combien de temps ?
3 ans.
Oui, 3 ans. Mais je peux rebondir là-dessus, on est là depuis 3 ans et le projet a démarré... fin 2016, du côté de Jean Blou, avec des parents, des enseignants qui se sont dit dans cette région, tiens, on a besoin de faire quelque chose de différent parce que pour nos enfants ou pour d'autres enfants, on n'est plus tout à fait d'accord avec certaines pédagogies du système éducatif où on a des idées de faire ça différemment. Ils se sont rassemblés et on a démarré. Et dans les premières années, c'était d'abord 15-20 enfants, puis après, ça a été 25, puis là, 35 l'année dernière. Et puis là, on va monter à 50 enfants. À partir de septembre, puis progressivement, peut-être l'année prochaine, encore recueillir une vingtaine d'enfants, puis une vingtaine d'enfants, et s'arrêter à une petite centaine, pour quand même avoir une taille toujours d'un petit village ou d'une grande famille, en fait, pour se connaître et pas être un grand établissement où on devient des nombres et plus personne ne se connaît.
Et vous avez combien de professeurs ?
On a combien de professeurs ? On a 6, on ne les appelle pas professeurs, ouais, ils sont parfois des gens qui transmettent, mais bon, parfois professeurs, pas tout le temps. Donc on les appelle des accompagnants, parce qu'ils accompagnent le plus possible les enfants dans tout ce qu'ils font. Et on en a 6, qui ne sont pas tous là tous les jours, donc ça fait que sur le terrain, il y a au moins 4 adultes en permanence, dans l'équipe éducative. Et il y a aussi, au-delà en fait, maintenant on a déménagé en juin, on est dans un nouveau lieu à Jean Blou, et ce nouveau lieu en fait va permettre d'accueillir des métiers, des gens qui ont leur métier et qui viennent le pratiquer à côté des enfants, sur place, dans le même lieu. Donc on va avoir des artisans, je cherche mes mots, un menuisier, un ferronnier, donc quelqu'un qui travaille le bois, quelqu'un qui travaille le fer, un boulanger, quelqu'un, donc les métiers de base qui va pouvoir faire du pain. Et puis un maraîcher, quelqu'un qui va travailler la terre, faire sortir des tomates, des salades, des pommes de terre, ou qui va être dans le verger, on va planter des arbres dans ce nouveau lieu où on a 2 hectares. Des arbres fruitiers qui vont amener des fruits. Et puis il y a aussi des gens qui seront dans des métiers, un espace de coworking, donc les gens sont dans une même pièce ou un même espace, et puis ils ont leur propre bureau, et puis ils travaillent dans l'informatique, ou ils travaillent, il y en a qui va être ingénieur et qui va venir avec ses machines dans notre lieu. Donc ces adultes qui vont être là, à côté des enfants, vont pouvoir partager ce qu'ils font aux enfants, et les enfants vont pouvoir être apprenants parfois à des moments avec eux, ou faire des projets pour l'école avec eux. Donc ça, je trouve ça super, c'est avoir des gens, des adultes qui ont leur passion, leur métier, juste à côté de nous, et pouvoir faire goûter ça aux enfants, s'ils le souhaitent. Oui.
Y a-t-il déjà eu des disputes entre adultes et enfants ?
Oui.
Ah
oui. Ah. C'est pas une enfant, c'est pas... Parfois, on me dit que... Ça peut être un peu... c'est un monde où tout est beau, où c'est bisounours. C'est le terme. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était d'une autre génération. C'est un dessin animé où des petits oursons volaient sur des nuages. Et donc, en fait, on est quand même très connecté aux choses pratiques de la ville. On a des métiers qui sont à côté de nous. On est ouvert à ce que... Avec les universités, notamment celle de Jean Blou, à ce que des gens de l'université puissent venir. À Louvain-la-Neuve, on a des gens qui viennent de l'extérieur partager ce qu'ils connaissent avec les enfants, où on accueille des stagiaires, des gens qui sont des professeurs d'autres écoles qui veulent venir voir qu'est-ce qu'on fait. Et on est en connexion avec d'autres écoles. Et en même temps, donc voilà, dans ce monde qui est bien concret, les enfants qui ont la possibilité d'être vraiment enfants, vraiment dans...
Considérés.
considérés comme des personnes, je le disais tout à l'heure, des êtres humains, eh bien, ils peuvent exprimer leurs émotions, ils peuvent exprimer leurs envies, leurs projets, et parfois ça va être contradictoire avec quelqu'un d'autre, ou parfois on a une grosse émotion qui va arriver, une colère, une tristesse, une peur, et on peut avoir des conflits. On a des conflits parfois entre enfants et parfois entre enfants et adultes. Les adultes aussi ne sont pas parfaits. Et certaines fois, ils peuvent dépasser les limites et tout ça. Et donc, quand en fait, on a mis en place des outils qui s'appellent la médiation, et quand des enfants entre enfants se disputent, ou un enfant et un adulte se disputent ou ne sont pas d'accord, on va appeler, on va leur demander d'entrer en médiation, c'est-à-dire de se poser à une table, hein, comme on est actuellement, et par exemple, on aurait quelqu'un en plus. On peut faire peut-être un petit jeu pour essayer d'en miner une.
Oui, okay.
Mais
on peut voir, oui.
Juste une autre question à propos des disputes.
Ok, vas-y.
Y a-t-il déjà eu des disputes de projets? Donc, y a par exemple deux projets qui se mélangent, et des enfants ou des adultes se disputent parce qu'ils ne veulent pas faire ça ou ceci.
J'ai pas d'exemple comme ça de dispute de projet, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des conflits de projets qui, par exemple, un projet voudrait utiliser tel matériel, et tel matériel est déjà utilisé pour un autre projet. Du coup, il va y avoir un conflit, une dispute. Et ce qu'on essaie de créer dans notre école, c'est ça, c'est des endroits de médiation, des endroits où la communication qui peut être, on appelle ça une communication vivante, naturelle ou pas violente. Et donc on peut s'exprimer sans se taper, et en disant tiens, voilà comment je me sens, voilà quel est mon besoin, et comment on peut faire, comment on peut négocier, comment on peut trouver une solution ensemble. Donc c'est comme ça qu'on essaie de résoudre s'il y a des problèmes, des tensions, on les appelle des tensions dans l'école, entre des projets. Et donc ça sûrement arrivé, j'ai pas un exemple qui me vient comme ça, mais par exemple si on a un espace de jeu au sol où il y a des tatamis pour faire du judo, pour faire de la gym.
Pour faire de l'aïkido.
L'aïkido. Alors moi, je ne sais pas en faire, et je crois que dans l'école, il n'y a personne qui en a encore fait. Mais si tu veux venir nous en proposer, tu peux.
Je vais bien. Je suis déjà
des ceintures quoi ?
C'est pas des ceintures, c'est des filets en tissu.
Ok, je connais pas trop l'aïkido, mais ça m'intéresse pas mal. Barrette jaune.
Barrette jaune.
Ok. Moi, j'aurais envie d'apprendre la capoeira aussi.
Capoeira, bon. j'ai essayé pour faire l'entraînement.
Ouais.
On n'a pas décidé, ça faisait trop de bruit. Comme ça. Par contre, j'aimais bien. Parce que l'aïkido, là, il faut vraiment tout retenir. La capoeira, il faut retenir une espèce de chanson. Que ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de capoeira que je m'en souviens plus de la chanson. On faisait aussi des jeux de touche-touche quand on faisait cet entraînement. En fait, c'est un peu un sport normal, la capoeira.
C'est des sports qui m'intéressent beaucoup parce que justement, il y a beaucoup de la relation de l'un à l'autre dans l'aïkido, du mouvement de tiens, je t'amène plutôt te bloquer. Et il y a un peu de ça dans la communication non violente, c'est tiens, je vais un peu dans ton camp, ou un peu tu viens dans le mien, tu comprends ce qui se passe en moi et comment on trouve une solution. Et donc si je poursuis dans l'exemple avec ce tapis de judo ou tapis d'aïkido, en fait tapis au sol, ils sont utilisés par un club, qui était le club judo, ou par les clubs gym qui s'entraînent. Et il y a un autre moment, il y a un club théâtre impro qui a lieu dans l'école. Et ils avaient besoin du même espace. Du coup, comment ils allaient pouvoir faire leur club ensemble, leurs activités en même temps. Et là, c'était une petite tension, mais une tension quand même d'occupation d'un espace, parce qu'il y avait du matériel de l'un et de l'autre dans le même espace. Et donc, quand on a un problème comme ça, on essaie de trouver une solution. Et puis là, il n'y avait pas beaucoup d'émotions qui étaient de colère ou de tristesse ou de peur qui étaient en jeu. Mais donc, on a quand même posé ce besoin de faire ce club en même temps. Donc, essayer de trouver un espace différent ou alors se partager l'espace. Et donc, quand il y a des conflits, des tensions, des disputes entre des projets, on essaie de trouver des solutions pour que chacun puisse être respecté.
Et
l'adulte n'a pas la priorité. Par exemple, si moi, je faisais le club théâtre, impro, et que le club judo c'était que des enfants, c'est pas moi qui va dire ok je vais occuper cet espace parce que je suis l'adulte. Ouais. Du coup on essaye vraiment de négocier, chacun a le même, et ça c'est un autre point que j'ai pas abordé, voilà, chacun a un droit dans l'école de donner son avis, son opinion, et donc on construit les règles de l'école ensemble. Par exemple les règles de l'école, eh ben, c'est les enfants et les adultes qui les décident ensemble. On a un moment par semaine où on peut venir modifier des règles, en ajouter de nouvelles, en arrêter des anciennes. On peut aussi amener des projets nouveaux pour l'école. Et ça, c'est à la fois les enfants et les adultes qui peuvent proposer ça.
Et qui a eu l'idée de faire cette école et pourquoi on a fait cette école?
Ok. Avant de venir à cette question, je vous propose de faire la médiation.
Okay.
Comme ça, parce que là, on sort vraiment du sujet. Et comme ça, après, je reviens dans ta question de l'idée de l'école et de qui l'a créée. Ok, qui veut être médiateur?
Médiateur, c'est...
Ou, je peux être le médiateur, comme ça, je vous explique. On a deux personnes qui vont plutôt jouer les tensions, le conflit.
Ok.
Moi, ouais, je vais faire le conflit.
Ok, et qui?
Moi, je veux bien.
Ok, on peut en avoir plus, hein, pour en avoir trois.
Moi, ça va.
Ok, deux. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir comme conflit? Par exemple, on est dans une salle de classe. On pourrait se dire qu'il y en a un qui
a besoin de parler à son ami et l'autre qui veut rester calme pour pouvoir se concentrer.
Ah ouais.
Donc, toi, tu parles à Iñaki et moi, je dis arrête, ok?
Ouais, et tu lui as crié dessus, oui, méchamment?
Ouais.
C'est-à-dire quoi, méchamment?
Méchamment, c'est un peu en grognant.
Tu te calmes.
Dans un genre comme ça. Te calme, ouais.
Et comment... Ah, ok, il y a eu ça. Et,
tuto, comment casser un micro.
Est-ce qu'il y a eu une action de violence physique? Est-ce que c'est tapé? Non, juste verbal, c'est ça?
Non, verbal, c'est bien.
Ok. D'accord. Et alors, le rôle du médiateur, c'est une personne qui n'était pas là au conflit, mais qui va... vous allez venir lui expliquer.
Donner un avis objectif.
Je ne vais pas donner un avis objectif, je vais plus vous donner la parole l'un après l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir décrire ce qui s'est passé pour l'un et l'autre. Et moi, je vais être la personne qui donne la parole.
Ok.
Qui garde le cadre pour qu'on ne s'énerve pas ou on se respecte.
Donc
on peut rester en colère, mais on se respecte dans la discussion. Qui va essayer d'amener les uns ou les autres d'aller à une conclusion.
Donc, c'est l'inverse du jeu de l'école. Dans quelque sorte.
C'est-à-dire
C'est quoi le jeu de l'école?
Ben, le jeu à l'école. Le professeur, les personnes qui se disputent et tout ça.
Ouais.
Et pourquoi, qu'est-ce qu'il fait?
Oui. C'est directement le professeur qui dit non, tous les deux au coin, direct, sans écouter.
Parfois, exactement. Si. Parfois, il écoute.
Oui, mais...
Pas dans notre école.
Alors, dans notre école, c'est surtout... Il y a un fight, et c'est toujours le chouchou de la prof qui gagne, même si c'est lui qui a tort.
Okay. Ou alors les deux au mur.
C'est à moi, mon rôle là, en tant que médiateur, je vais plus être dans l'écoute, dans la reformulation de ce que vous allez dire. Mm-hmm. C'est pas moi qui vais essayer de trouver la solution, c'est vous qui allez essayer. Alors, je peux faire une proposition, tiens, est-ce que ça pourrait être une proposition de solution? Mais vous pouvez essayer de la trouver vous-même, et c'est surtout vous qui allez à la fin dire, ok, je suis d'accord avec ça, ou c'est pas l'adulte qui dit, ok, j'ai vu ça, et puis maintenant on fait comme ça, voilà la punition, etc. C'est essayer de trouver quelque chose...
Ça apprend aussi aux enfants à ne pas être trop obstinés à avoir raison non plus.
Oui, et aussi pas être forcément dépendant de quelqu'un extérieur qui te dit, ok, c'est ça la solution. C'est essayer de soi-même trouver la solution, et soi-même aussi écouter ce qui s'est passé chez l'autre, donc ce qu'on appelle l'empathie, voir ce qui s'est passé, et puis essayer de... résoudre le conflit.
Alors, on a fait cette session de cinéma.
De théâtre. Parce que cinéma, on devrait être filmé.
Ouais.
Alors,
Ok, parle à Iñaki ou à Emily, je sais pas.
Bah là, je parle à Iñaki actuellement. Comment ça va, Minecraft?
Ça va.
T'as pas beaucoup d'aimants non plus.
Désolée, tu veux bien un peu te calmer parce que je suis en train de faire quelque chose comme ça.
Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir besoin d'autant de calme dans une salle de classe?
Ben, j'écris quelque chose. Je dois faire mes devoirs, je suis collée pendant une heure.
Bah oui, mais moi je fais que parler avec mon ami.
Tu veux t'aimer, ouais?
Je fais que parler avec mon ami et je trouve que ta réaction est un petit peu trop abusive et moi j'aimerais juste parler calmement avec mon ami sans vouloir te déranger dans ton travail.
Ok, j'arrête la situation. Sauf si t'as envie de dire une dernière phrase.
Je accepte alors. J'accepte bien si c'est dans une autre pièce.
Ok, attendez. Bah, oui. Là, vous êtes en train, et c'est très bien, vous êtes très bien, de même résoudre la situation sans moi. Mais par exemple, imaginons que tu avais vraiment crié, et puis là, tu t'étais emporté, tu t'es couru dehors, ou tu l'avais tapé, parce que tu es en colère, tu sens une colère, et donc ça s'est exprimé avec des mots, avec des actes. Et toi, et voilà. Et après, vous venez me voir, ou alors après, tiens, on dit, on fait une médiation assise, un petit temps après, une heure après, un jour après, pour revenir sur cette situation. Donc là, je vous prends un par un, et un par un, ou à chacun à son tour, et je te dirais, tiens, c'est quoi pour toi? Tu peux me raconter quelle était la situation? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Ben, en fait, les deux garçons là-bas, ils étaient en train de parler. Mais je trouvais qu'ils parlaient un peu trop fort. Mm-hmm. Alors j'ai demandé d'abord gentiment, est-ce que tu veux bien te calmer? Puis il a dit, je voudrais parler avec mon ami. Puis je m'ai énervée, j'ai dit, tu vas te calmer? Oui, super fort. Ouais. Et puis, je lui ai donné une claque, un truc comme ça.
Ok.
Et après...
Après t'es sorti.
Ouais.
Ok. Ok, j'ai entendu ce que t'as dit. Donc... Il parlait, si je reformule et tu me dis si c'est ça, donc là j'essaie de reformuler ce que tu dis pour voir si j'ai bien compris. Et justement, ça me permet quand je reformule que l'autre aussi, parce qu'il est peut-être encore en conflit avec toi, si c'est moi qui redis les mots, peut-être qu'il va juste les entendre différemment. Ça aide aussi à ce que l'autre entende le discours. Donc, si je comprends bien, tu étais dans la même pièce que tes deux amis, que ces deux enfants, et puis ils parlaient ensemble, et puis toi tu lui as dit stop. Une première fois, et il a continué à parler, et après tu lui as mis une claque et tu es sorti. Est-ce que c'est ça?
Oui.
Ok. Je vais maintenant laisser la. Et tu étais en train de faire quelque chose?
J'étais en train de faire mes devoirs, j'étais collée pour une heure.
Tu étais dans la même pièce, en train de faire tes devoirs pendant une heure?
Ouais, parce que j'étais collée.
Ok. Et tu avais besoin, envie de faire tes devoirs? Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça? Vraiment les faits, ce qui s'est passé?
Les faits, ce qui s'est passé.
Oui, ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a un autre détail que tu as encore en tête, que tu as envie de me dire?
Ce que j'ai encore en tête, c'est qu'il jouait avec son ordinateur à Minecraft, mm-hmm. Ce qui faisait aussi du bruit.
Ok.
Alors...
Donc tu étais perturbée par le bruit de l'ordinateur.
Ouais. Ouais.
Ok. Et toi alors, quel est, dans ton point de vue, ce qui s'est passé? Comment tu as vécu la situation?
J'étais en train de parler avec mon ami et il m'a demandé de ne plus parler à mon ami parce qu'il a besoin de se concentrer. Et moi, je trouvais ça pas juste parce que je faisais que parler calmement. Du coup, je lui ai dit calmement aussi. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Et du coup, il s'est énervé parce que j'étais pas d'accord. Et puis, il m'a mis une claque et il est parti.
Ok. Et donc, toi, tu étais dans cette pièce et tu parlais à ton ami et... Quand il t'a demandé de ne plus parler, t'as pas été d'accord avec ça. Donc tu l'as exprimé par des mots.
J'ai trouvé que j'étais assez calme quand je lui ai demandé quand je lui ai dit que j'étais pas d'accord. Mm-hmm. Et il s'est quand même énervé.
D'accord.
C'est pas ma faute, mais laisser faire emporter. La colère est venue en moi.
Ok, donc toi tu t'es senti en colère. C'était ça ton émotion? Et toi, tu te sentais plutôt calme, ça que j'entends aussi.
Je me suis senti
aussi un peu.
Je me suis senti.
Est-ce que tu t'es senti surpris? Parce que j'ai l'impression que si je comprends, comprends ce que vous me dites, c'est que ça a été un peu soudain, le fait qu'il t'ait mis une claque ou.
Oui.
Que...
C'était soudain et je pensais qu'on pouvait avoir une discussion calme.
Mais d'accord. Non. Donc toi, tu aurais aimé avoir une discussion pour comprendre... Tu n'étais pas d'accord avec ce qu'il dit, mais est-ce que tu comprenais sa demande?
Je comprenais sa demande, mais je trouvais ça un peu abusif que lui, juste parce qu'il veut faire ses devoirs, que les autres doivent...
se calmer.
Mm-hmm. Plus parler du tout, juste parce que lui, il doit faire ses devoirs.
Et toi, est-ce que tu entends ce qu'il dit que... Il comprenait ta demande et en même temps, il avait besoin de discuter avec toi pour pouvoir trouver une solution. Il avait besoin, lui, de continuer à parler. Et il n'acceptait pas, en fait, que tu l'obliges à ce que lui et son ami ne parlent plus. Est-ce que tu comprends cette phrase, ce qu'il dit?
Oui, mais comme dit ma mère, le bruit de l'ordinateur, deux bruits qu'on entend, comme dit ma mère, c'est pas très bien, on risque d'avoir des problèmes. Je veux juste, ils peuvent baisser, chuchoter, ça je veux bien.
D'accord.
Mais l'ordinateur, ils doivent plus l'éteindre, sinon...
Lorsque j'entends, alors là pour vous dire, on a passé l'étape des faits, donc chacun a donné ses faits. Là, on a passé aussi l'étape des émotions. Je suis allé voir un peu quelle était ton émotion, toi ton émotion. Puis là, j'arrive à l'étape où j'essaie de voir quels sont vos besoins.
Oui, mais...
Donc là, je vais justement reformuler ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que ton besoin, c'était de pouvoir... Et donc, je vais te demander si c'est ça. Ton besoin, c'est de pouvoir faire ton travail. Pourquoi tu as été collé ? Et de pouvoir être en paix, en fait, d'être tranquille pour le faire.
Si.
Et tu es aussi d'accord ou tu acceptes ton besoin, c'est aussi de pouvoir avoir des gens autour de toi qui chuchotent ou qui peuvent faire leur activité. Et en même temps, tu as besoin que ça soit une activité avec un volume sonore assez bas pour ne pas être perturbé. Est-ce que c'est ça, tes besoins ? Pas ça ?
Oui, c'est plus ou moins ça.
Ok, alors si c'est plus ou moins, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées ou que je n'ai pas bien dit ?
Tout bien dit.
Ok. Et donc, je vais laisser la parole à ton... Voilà. Et toi, ton besoin, c'était quoi dans cette situation ?
C'était juste de pouvoir parler à mon ami...
Pendant qu'il jouait à Minecraft.
Laisse-le parler comme ça, on entend vraiment ce qu'il dit et...
Juste de pouvoir parler à mon ami normalement.
Ouais.
Voir chuchoter, ça ne me dérangerait pas. Mais si il avait juste demandé que je chuchote, j'aurais dit oui.
D'accord.
Il aurait juste pas dû prendre, pas dû s'énerver.
Ok. Donc, je reformule ce qu'il dit. Son besoin, tu me dis si c'est ça, c'est de pouvoir continuer à échanger avec ton ami. En fait, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être soit parler normalement, ça peut être soit chuchoter, mais tu avais besoin de continuer à avoir le lien de parole avec ton ami. Ouais. Et en même temps, bah, vu qu'il y a eu cette claque, ou vu qu'il y a eu. Finalement, ça n'a pas été exprimé de chuchoter. Tu t'es senti... voilà, je repars sur l'émotion, mais tu t'es... Ouais, tu t'es senti aussi un peu en colère, toi ?
Pas du tout, mais j'étais
quand
un peu...
Quand t'as été tapé ou triste, ou t'as eu peur ?
J'étais surpris.
Surpris, ok, la surprise, donc un peu la peur.
Ouais, je pensais qu'il allait juste continuer à parler normalement et qu'au bout d'un moment, on allait trouver une solution.
D'accord. Et actuellement, je vois peut-être qu'il y a une solution qui arrive, c'est que si une pour le futur, si une solution, si un cas comme ça se reproduit, est-ce que le chuchotement pourrait permettre que toi tu travailles sur les choses que tu as à faire et que eux ils continuent à faire une activité et peut-être parce que j'entends que tu ouais, parfois quand t'es en discussion avec quelqu'un, t'as pas forcément envie de chuchoter tout de suite, peut-être tu pourrais demander à ton voisin si t'as besoin de voilà, si pour lui c'est important que tu chuchotes, ou sinon s'il a besoin de beaucoup de concentration ou un tout petit peu, s'assurer que c'est ok pour lui ce qui se passe. Parce que ça répondrait à votre problème et ça aiderait votre relation pour le futur.
Oui.
Si vous êtes dans une même pièce et que toi tu travailles et que lui il a envie de...
Par contre aussi, y a pas que nous deux qui ont été dans l'histoire.
Ouais.
Il y avait aussi Iñaki, le pote de Elliot, qui entre dans l'histoire.
Ouais, mais voilà, oui, c'est ça. C'est vrai que parfois, il y a des situations qui ne peuvent pas se résoudre tout de suite parce que c'est un peu complexe, il y a d'autres personnes, etc. Mais on peut déjà faire un premier pas. Et pour là, l'exemple d'aujourd'hui, je propose d'arrêter là la médiation.
Oui.
Et en même temps, se dire... Voilà, une médiation, c'est ça, c'est permettre à des enfants ou des enfants et des adultes de re-questionner leur comportement, leurs émotions, leurs besoins, et puis après trouver une action ensemble. Parfois, ça peut être une action seul à seul, en fait, dire tiens, là, dans cette situation, bah, c'est moi qui aurais pu peut-être sortir de cette pièce et aller dans une pièce réservée aux choses calmes. Et donc, c'est pas forcément faire une demande à l'autre. Parfois, ça peut être une demande à l'autre de tiens, l'autre, quand moi je dis, ça pourrait être ça aussi. Mais... Une des solutions dans ça. Ça pourrait être, moi, quand je suis dans une activité calme, je le demande à l'autre, est-ce qu'il peut maintenant passer à un mode chuchotement ? C'est se dire, tiens, on réapprend nos comportements, et quand on est face à telle ou telle émotion, comment on peut réagir, voilà, de façon la plus juste pour garder le lien avec l'autre ?
Mais Mais moi, comme ma mallette est trop lourde, il y a plein de choses dedans. Comment je vais aller de la salle où il y a des activités, de la salle calme.
C'est très complexe, hein, ce cas.
Exactement,
mais là, on pourrait vraiment... Parfois, une médiation, ça prend une heure ou une demi-heure, trois quarts d'heure, parce que justement, il y a des questions comme ça qui émergent. Un besoin, si par exemple, il y avait cette solution qui émergeait, on peut faire ça comme ça, ben, il y aurait peut-être un autre besoin qui surgirait ou ça créerait là, un petit stress, tu vois, de déplacer quelque chose. Du coup, on irait chercher, tiens, comment ça se déplace ? Eh ben, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui le fera à ta place, ou peut-être que tu pourrais laisser tes affaires là, je ne sais pas. Voilà un peu. Et donc, à l'école démocratique, on essaye d'apprendre ça. Donc, les enfants apprennent à faire ça. Et un enfant peut faire ça avec d'autres enfants, faire le rôle de médiateur et donner la parole à chacun. Ils apprennent à aussi gérer un peu leurs émotions différemment. Même si c'est pas des super-héros et nous les adultes non plus, donc parfois on a des colères et puis on peut passer à être agressif. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est de pouvoir revenir sur ces situations. Si parfois on sort du cadre et qu'on va avoir des mots violents ou un acte violent avec un enfant ou entre enfants, c'est pouvoir se dire oh, tiens là, je suis allé trop loin. Et du coup, on peut peut-être avoir une médiation pour pacifier et respecter la personne et la relation et avoir un meilleur rapport l'un vers l'autre.
Mais du coup, pendant la médiation, il n'y a pas de il y a personne en tort à la fin.
Non, bah non, les deux personnes ont à la fois tort et à la fois raison. On a tous notre part de responsabilité. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus tort que l'autre. Il y a juste tiens, moi j'étais dans mes besoins, mes émotions qui étaient ça à ce moment-là. Toi, t'étais dans ça et ça. Et comment on se comprend et il y a peut-être quelqu'un qui a cassé quelque chose ou fait quelque chose et là il va tiens trouver qu'il y a besoin de réparer et donc c'est pas qu'il a tort mais qu'il y a eu un acte qui a été posé et qui parfois une responsabilité à prendre derrière, mais c'est moins une question de tort ou punition, plus de conscientisation et de prendre une responsabilité sur ses actions.
D'accord. Mais... sur ça, Iñaki.
Là j'avais juste une petite question.
Oui.
Mais... D'où vous est venue l'idée de faire de la médiation comment le projet a émergé?
Alors la médiation fait partie vraiment un peu des outils qu'on a mis en place tout de suite dans l'école, avec un autre outil qu'on a mis en place très rapidement, c'est de dire que les enfants et les adultes ont un même droit et peuvent décider, peuvent apporter les règles de l'école, les projets, ce qu'on appelle la gouvernance partagée, le fait de décider ensemble. Et on s'est dit aussi dès le début qu'on avait besoin de changer le rapport qu'ont les enfants et les adultes entre eux, ou les enfants entre eux aussi. Donc étudier, apprendre, moi j'ai un peu appris, je suis allé à une formation pour ça, et puis on a des livres, et puis on a des gens qui nous ont aidés à apprendre, et puis les enfants ont aussi appris à changer un peu notre façon de communiquer les uns avec les autres, ce qui s'appelle la communication non violente. Donc on a appris cet outil dès le début.
Si j'ai mal joué le méchant, c'est parce que je suis pas très habituée à être punie, à être comme ça.
D'accord.
Il n'y avait pas de méchant.
C'est ça, c'est ce qu'on a dit. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de méchant, c'était
bon,
de tort.
Pour moi, il y en avait un, mais ouais.
Mais qu'est-ce que veut dire le mot méchant ou gentil?
Parfois, il y a une action un petit peu trop abusive sur l'autre et que ça peut être...
Alors le comportement est... Ok, peut-être le comportement peut être effectivement abusif ou agressif. Et quand tu dis le méchant, c'est comme si toute ta personne était méchante. C'est pour ça que peut-être...
Le méchant de l'histoire, plus.
Je propose de faire attention aux mots et de dire, tiens, parfois on se donne des catégories. Et puis là, Esperanza, on fait attention justement à pas entrer dans les catégories ou essayer de ne pas être stigmatisé. Parfois, après, on se dit, bah, c'est moi le stupide, moi je suis nul. Moi, je suis méchant, moi, je suis gentil, moi, je suis le plus fort. Et donc, ça devient que parfois, on perd confiance en soi ou on se mettait l'étiquette. Et donc, de dire, bah oui, dans l'action qui était là, toi, tu as un comportement, je pourrais mettre ce qualificatif, ce mot agressif ou violent avec une gifle physiquement. Et en même temps, ce n'est pas pour ça que tu es méchant. C'est juste à un moment, il y a eu ce comportement, et puis tu auras un autre comportement très aimant juste après, peut-être faire un câlin ou être gentil. Voilà. Encore, je reprends le mot être gentil. Sure. C'est difficile au niveau du vocabulaire d'employer un vocabulaire qui essaye de ne pas mettre d'étiquette, et ça aide aussi à ce que chacun, si on fait attention au vocabulaire et comment on s'exprime les uns avec les autres, ça aide à ce que chacun soit respecté et chacun ait confiance en soi. Si on. Comme on disait tout à l'heure, parfois les adultes vont nous dévaloriser, vont nous dire bah tiens tu sais rien toi ou moi je sais mieux que toi et du coup ben ça discrimine, ça on perd un peu confiance en soi, surtout quand c'est des gens un adulte parfois et je dis pas que c'est ça qu'il faut avoir mais dans notre société hein, les enfants peut-être vont admirer, vont faire par mimétisme, vont mimer les adultes, donc si un adulte va être violent vis-à-vis d'un enfant, ça peut avoir des répercussions sur lui.
D'accord. Je reçois une petite musique et puis la météo.
Eh bien, on peut faire ça. Je récupère vite les musiques. Eh bien, je vous propose de passer Bittersweet Symphony, donc je vais le faire franciser, de The Verve, si c'est bon pour la technique. Et donc, c'était Bittersweet Symphony de The Verve qu'on a un peu rétréci parce qu'on est un tout petit peu en manque de temps. Donc, je vais vous laisser continuer.
Ouais, je propose qu'on passe à la météo.
Mais quel beau morceau, Bittersweet Symphony.
Il fait 28 degrés et ça descendra petit à petit. Il y aura aussi un temps un peu plus nuageux à partir de 18h. et le coucher du soleil à 21h19. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
Ah bah merci pour cette météo.
Et donc voilà, Bella, je pense qu'on va encore, je pense qu'on a le temps encore pour poser une ou deux petites questions vu le temps qui presse. Donc si quelqu'un a des questions.
Oui.
Moi j'ai peut-être une question à vous poser. Quand est-ce que vous avez senti dernièrement que, je sais pas si je peux, oui, que des adultes autour de vous pouvaient peut-être projeter leur peur sur vous. Là, j'ai une phrase qu'on a justement dans notre stand et qu'on demande aux adultes de tiens, réfléchir à ça. Quand est-ce que parfois ils projettent leur peur sur les enfants et parfois, ils leur interdisent telle ou telle activité ou de voir telle ou telle personne. Est-ce que vous, ça vous est arrivé dans votre vie dernièrement ?
Je n'ai pas très bien compris.
Par exemple, j'ai un exemple moi, que je connais bien autour de moi, des adultes qui interdisent aux enfants de monter à l'arbre. À un arbre parce qu'ils ont peur eux-mêmes de monter aux arbres et tiens, ils pourraient se faire mal. Donc parfois, un adulte peut projeter ses propres peurs. « Oh tiens, j'ai peur que tu rencontres telle ou telle personne parce que j'ai pas trop confiance. » Est-ce que ça vous arrive dans votre vie de...
Ah bah, moi, dernièrement, c'était un festival Maslarp. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est un gros jeu. Et ils avaient dit aux enfants qu'ils ne pouvaient pas jouer parce qu'ils avaient moins d'expérience que les adultes. Mais certains adultes, ils savent moins jouer que certains enfants. Parce que... D'accord, vu qu'on est des enfants, on a peut-être moins d'expérience dans ce jeu.
En plus, c'est pas forcément vrai.
Voilà, c'est pas forcément vrai. Il y a des nouveaux qui savent moins jouer que nous parce qu'on joue depuis très longtemps. Et c'était vraiment dommage qu'on n'ait pas vraiment le droit de jouer juste parce qu'on est des enfants moins de 16 ans.
Et à propos de la pour se faire des amis et tout ça, eh ben moi j'étais dans un parc, puis je vois des personnes, mon papa me propose si je voudrais être ami avec lui ou celui de cela. Je dis non, j'ai pas si confiance, mais après plus je grandis, plus je me fais des amis.
Parce donc c'est toi-même qui développes la confiance pour aller à l'extérieur et aller doucement rencontrer des gens. C'est vrai que je pense que l'adulte, il peut essayer de changer son comportement ou essayer de retrouver un comportement où c'est une personne, employer le mot « sécure », c'est-à-dire qui va apporter un cadre sécurisant pour l'enfant, surtout le parent, donc la maman, le papa, et qui va pouvoir lui permettre, si l'enfant a besoin de revenir auprès de quelqu'un qui est sécurisant, revenir vers lui, et en même temps, progressivement, ouvrir ses ailes et aller faire des expériences sociales un peu plus loin dans le voisinage ou les frères et sœurs, et puis après progressivement de plus en plus sortir du cocon familial pour aller rencontrer la société.
Devenir sociable.
Exactement. Et avec un parent qui doit trouver cette place juste de pouvoir être sécurisant, mais pas trop sécurisant. Ne pas être étouffant et permettre à l'enfant vraiment de se sociabiliser. Et donc justement, ne pas projeter ses peurs. Parfois, un parent va avoir peur qu'un enfant aille faire des expériences à l'extérieur parce que lui-même n'a pas confiance dans la société ou pas confiance dans telle ou telle chose.
Ok. Inaki, Émilie, vous avez des exemples de... Comment ça s'appelle déjà
D'adultes qui peuvent projeter leurs peurs sur les enfants ou qui peuvent...
Préjugés par rapport aux enfants.
Tu peux avoir des préjugés, manque de confiance, des préjugés négatifs par rapport aux enfants.
Là, moi, pour le moment, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit.
Moi, j'en ai un deuxième. Mais
je t'en prie.
Le fait que tous les enfants, ils font directement du bruit. C'est cool.
Ah oui.
Dans le cas, ça arrive tout le temps.
Ouais, on n'a pas le droit d'aller dans des endroits calmes parce qu'on fait trop de bruit.
Ouais.
Nous, on a la zone. Nous, c'est un peu la même chose. Dans notre cours, c'est un peu la même chose. Dans la zone calme, la zone pour courir, la zone mouvement.
On va vous prendre croire incapable de
d'être calme, d'être et calme. De pas faire de bruit.
Ouais. Toi, dans ta cour, il y a quand même une zone calme. Donc, c'est-à-dire qu'il dans cette segmentation par zone, on pense que l'enfant peut être calme.
Oui, et il y en a qui ne respectent pas la zone calme.
Mm-hmm. Ok, et bien sur ce, il va bientôt falloir couper l'antenne.
Eh bien, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là. Donc, nous avions
Émilie,
Elliot,
Geno,
Romain,
avec le
de l'école démocratique de l'Orneau, voilà.
Oui.
Et donc, il y avait moi, Inaki. Et donc, nous allons rendre l'antenne pour le bloc suivant. Je n'ai plus le nom, mais bon. Pour le bloc suivant, donc de 17h à 19h, et donc pour terminer, eh bien, nous vous souhaitons une bonne continuation et peut-être à l'année prochaine.
Oui, merci bien. Les auditeurs, bonne fin de festival.
Oui, merci. Et encore une petite heure pour venir à Ostende si vous voulez nous rencontrer. Ouais. Merci bien.
Eh bien, nous vous proposons un petit morceau de musique où on n'a pas le temps. Un petit morceau de musique, eh bien voilà. Un morceau de musique, le nom me fait un peu rire, c'est Blablabla. Bla, bla. C'est le nom d'Armin van Buuren. Voilà, nous rendons l'antenne.
Radio Esperanza. We don't even care about what they say.